Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie. Nous retrouvons Yves-Marie Berset de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci de poursuivre votre série sur les grands personnages méconnus du XVIIe. Aujourd'hui, vous nous conduisez sur les traces du roi le plus pittoresque de l'histoire anglaise, Charles II. Charles II d'Angleterre, né en 1630, couronné en 1660 à Westminster et mort en 1685. Personnage pittoresque, on va le voir, intelligent, aimable, sceptique, sensuel. Il fut le digne petit-fils d'Henri IV. Qui était-il? Comment a-t-il vécu toute cette période extrêmement compliquée de la Révolution, de l'exécution de son père en 1649 et son retour et sa restauration?
Alors voilà, il est certainement, comme vous l'avez dit, un des plus pittoresques. Il n'est pas le seul pittoresque, Henri VIII lui disputerait peut-être la palme, mais il est sans doute le plus sympathique ou le plus légendaire. La reine Victoria, qui sans doute avait une longue connaissance de l'histoire, disait que de tous ses prédécesseurs, c'était Charles II qui avait pour elle le plus de prestige et pour lequel elle réservait son affection du passé. Alors c'est un personnage, il ressemble très peu à la reine Victoria, il ressemble beaucoup plus donc à son grand-père Henri IV. Alors vous l'avez dit, il se situe, faire se souvenir des dates de ce personnage, né en 1630, mort en 1685, c'est à peu près un contemporain de Louis XIV. Il est effectivement son cousin, son allié, sont presque contemporains, mais il a eu une carrière, on dira, beaucoup plus tragique, dramatique que celle de Louis XIV, puisque entre l'âge de 14 ans, lorsque son père Charles Ier est lancé dans la guerre civile en Angleterre et où le jeune Charles, prince de Galles, accompagne son père, donc entre l'âge de 14 ans et celui de 30 ans, où par une sorte d'extraordinaire coup du sort, de retournement politique qui était totalement inattendu dans le temps et qu'on peut essayer d'expliquer. À 30 ans, il retrouve le trône de ses ancêtres, il restaure la monarchie en Angleterre. Et pendant donc cette période, qui va donc de 1646 jusqu'à 1660, il vit traqué, il vit à l'étranger, en exil, souvent dans la misère et dans le désespoir. C'est donc une expérience extraordinaire pour un roi que d'avoir été si près du malheur, si près aussi des conditions sociales les plus diverses. Et il a acquis une expérience politique qu'il va savoir mettre en œuvre. Il devient donc de rechef roi d'Angleterre en 1660, après les années du protectorat de Cromwell. Oliver Cromwell est mort en 1658. Et son fils Richard n'est pas capable de succéder, d'assumer le gouvernement d'un pays qui est alors divisé en factions militaires. Il faut se souvenir qu'il y a eu là pendant 20 ans une guerre civile intense à l'intérieur des îles britanniques. Et donc il s'est formé quelque chose qui est peu courant dans l'histoire d'Angleterre, c'est-à-dire des factions armées permanentes qui regroupent les gens de la gentry, qui forment des régiments de milices par province, par ville, et qui sont tentés de se partager un pouvoir de fait à l'intérieur des provinces. Il y a donc en 1658 et 1659, après la disparition d'Oliver Cromwell et puis le départ de Richard, il y a un vide du pouvoir. Et un général de l'armée d'Écosse, George Monk, qui est un soldat de métier, qui a servi dans toutes les batailles de Cromwell, ressent la nécessité d'un retour de la paix, d'une cohérence, d'une unité à l'intérieur des îles britanniques. Et on sait que Monk, il a un certain âge, il a une cinquantaine d'années à ce moment-là. Ce n'est pas un idéologue, simplement il se défie des fanatiques, des puritains, des quakers, de toutes les sectes qui prolifèrent et qui se disputent des lambeaux de pouvoir. C'est dans cet esprit que se trouve sans doute la majorité des Anglais à ce moment-là. Et c'est ce qui explique que, brusquement, dans les premiers mois de 1660, on va faire appel et l'ensemble de l'opinion anglaise se rallie presque spontanément à l'idée d'aller rechercher ce roi qui est pour le moment réfugié aux Pays-Bas. Alors il était réfugié à ce moment-là à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols, et comme l'Angleterre était en guerre navale presque constante avec l'Espagne, Monk envoie un émissaire à Charles II et lui suggère de passer dans les Pays-Bas, dans les Provinces Unies, dans les Pays-Bas du Nord, à Breda, d'où il va publier une déclaration où il promet de respecter les libertés de l'Angleterre, d'oublier les querelles, d'accorder le pardon à tous ceux qui se sont engagés dans le parti de la guerre civile. Et c'est la condition donc de son retour qui intervient en mai 1660. Il arrive le 25 mai à Douvres. On le fait arriver à toutes petites étapes pour qu'il arrive à Londres seulement le 29 mai, parce que c'est le jour de son anniversaire. Il a juste 30 ans ce jour-là.
Alors, bon, on a bien compris que c'était la lassitude et la crainte de l'anarchie qui a fait que les Anglais, avec Monk, se sont retournés vers le roi Charles II. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années d'exil ?
Alors, pendant ces années d'exil, son père a été fait prisonnier en 1647. Et jugé par une commission composée par le Parlement et décapité le 31 janvier 1649. À ce moment-là, le jeune Charles est devenu, selon la loi successorale, roi d'Angleterre. Il était réfugié aux îles anglo-normandes et il va ensuite passer en Écosse. Les Écossais le reconnaissent pour roi.
Oui, parce que c'est un Stuart,
c'est
en plus.
C'est un Stuart, exactement. Il y a une numérotation différente. Il est couronné à Scone, comme tous les rois d'Écosse, en janvier 1651. Et il entreprend la reconquête de son royaume en passant avec une armée écossaise par les provinces du Nord, par le Cumberland, et puis en descendant vers le sud, vers les Midlands. Et il espère un ralliement des villes catholiques dans les comtés du nord-est de l'Angleterre et du pays de Galles aussi, qui ont fourni le plus grand nombre des soldats de la cause royaliste de son père, du vivant de Charles Ier. Mais le temps a passé, Cromwell a remporté des victoires militaires décisives, de sorte que Charles II arrive à Worcester. Si vous voulez, c'est dans les Midlands, c'est au nord-ouest de la frontière du pays de Galles. Et là, il a une armée d'environ 10 000 hommes, alors que l'armée du Parlement doit faire à peu près 30 000 hommes. Et la rencontre qui a lieu le 3 septembre 1651 est inévitablement perdue pour la cause royale. Et dans la nuit, il va disparaître à cheval avec quelques compagnons et sa tête est mise à prix. Et en l'espace d'une quarantaine de jours, 43 jours exactement, il va clandestinement traverser toute l'Angleterre qui est parcourue par les troupes parlementaires où sa tête est mise à prix et parvenir enfin le 15 octobre. Et il a quitté donc Worcester le 3 septembre pendant la nuit et il va réussir à s'embarquer le 15 octobre à Shoreham, qui est à côté de Brighton, d'où il parviendra à Fécamp. Voilà, c'est cet épisode extraordinaire dont il va se ressouvenir à plusieurs occasions au cours de son règne, désormais à partir de 1660, pacifique. Curieusement, dans des moments de confidence à des proches de ses amis de la cour, il va faire le récit de cet épisode extraordinaire qui va donc prendre une dimension de fable politique, puisque elle correspond à ce tournant politique extraordinaire qu'est la Restauration. On voit après coup, et on peut mesurer, le tournant culturel. Il y a eu plusieurs décennies de puritanisme, d'une austérité rigoureuse.
Il y avait les niveleurs.
Les niveleurs. Et Charles II, en Écosse, dans le temps, les deux années qu'il a passées en Écosse, disait qu'il supportait tant bien que mal les rigueurs de l'Église écossaise et disait « mais en Écosse, c'est un péché d'écouter un violon ». Alors voilà, ce n'était pas du tout son tempérament d'accepter le puritanisme. Et,
oui, parce que je crois que c'était un grand amateur d'art.
D'art et de jolies femmes également. Alors il y a une extraordinaire révolution culturelle, on dira, qui vient à partir de 1660, des bals, des comédies, des farces, un déchaînement de joie et de liberté des mœurs, qui correspond à ce que, dans une histoire un peu folklorique de l'Angleterre, on appelle la Merry Old England, la joyeuse vieille Angleterre. Je crois que c'est un moment décisif dans la construction de cette image de l'Angleterre où on boit de la bière forte et où on danse pour les jours de mai ou du 15 août.
Je comprends qu'ils ne s'entendent pas trop avec les puritains.
Son comportement, rien moins que vertueux. C'est un personnage qui est tolérant, qui est aimable, qui recherche la paix civile, mais il ne la recherche pas, on dira, dans son foyer. Il épouse une princesse de Portugal en 1662, Catherine de Bragance, qui malheureusement ne peut pas porter d'enfant. Elle a plusieurs fois des fausses couches. Et elle est abondamment trompée. Il faut dire que Charles II avait commencé très tôt sa carrière de Don Juan, de coureur de jupons, parce qu'on lui compte la bagatelle d'une bonne douzaine de maîtresses. Il y en a 7 qui sont homologuées, certaines, un peu plus sur lesquelles on hésite. Et puis, pas moins de 12 enfants illégitimes. Alors, le plus célèbre d'entre eux, peut-être, ou la plus célèbre de ses maîtresses, c'est Louise Renée de Pencoët de Kerroual, jeune fille de noblesse bretonne, qui était demoiselle d'honneur de la sœur de Charles II, Henriette d'Angleterre, épouse du duc d'Orléans. Et belle-sœur de Louis XIV. Et elle est remarquée au cours d'un voyage de Madame Henriette à Londres, allant voir son frère. Charles II aperçoit Louise Renée de Pencoët de Kerroual et n'a de cesse, bien sûr, de la séduire. Et ce qui plaît tout à fait à l'ambassadeur de France, Colbert de Croissy, qui l'encourage vivement dans cette carrière. Alors, elle sera duchesse de Portsmouth, mère de plusieurs enfants, mais de son premier-né, un garçon devient duc de Richmond, et il sera le lointain ancêtre de Lady Diana Spencer. Catherine de Bragance, on peut suivre son destin. Après la mort lors aux derniers instants de Charles II, elle insista, à juste titre certainement, pour qu'il soit accompagné par un prêtre catholique, puisque, en fait, depuis sans doute 1670, Charles II était secrètement converti au catholicisme. Et Catherine de Bragance, après, revient au Portugal. Et on voit qu'elle meurt en 1705. C'était loin d'être une personne négligeable, puisqu'elle exerce pendant 3 ou 4 années le rôle de régente de la couronne de Portugal. Et c'est elle qui, un peu, est l'instigatrice du traité de Methuen en 1703, qui institue une alliance perpétuelle entre le Portugal et l'Angleterre et la Grande-Bretagne.
Oui, elle a eu une destinée de reine d'Angleterre à proroger après.
Proroger dans son veuvage. Alors, on peut peut-être, malheureusement, on ne peut pas raconter tous les épisodes du règne de Charles II, simplement pour préciser la chronologie, faire ressouvenir qu'en 1665, c'est-à-dire 5 années simplement après la Restauration, il y a l'épisode terrible de la Grande Peste de Londres à l'été 1665, qui tue 70 000 personnes à Londres seulement. Londres qui devait être une ville de 250 à 200 000 habitants. Ça veut dire qu'un sur 2 ou 3 habitants est tué. Et ensuite, l'année suivante, en septembre 1666, The Great Fire, le grand incendie qui ravage, qui brûle, je crois, 13 à 14 000 maisons, tout le quartier ancien de l'Est de Londres. Et Après, bon, il y a des mêlées avec le Parlement, la période d'hystérie antipapiste entre 1678 et 1681. Et puis, c'est seulement, vous voyez, entre 81 et 85 que Charles II retrouve en quelque sorte une gouvernance, on emploiera le mot à la mode, une gouvernance plus stable, plus sereine. Revenons, si vous voulez, à l'épisode tragique de sa jeunesse. L'importance tient à ce que Charles II lui-même avait choisi de raconter cet épisode au moment où il était sur le bateau qui le transportait de Scheveningen dans les Provinces-Unies, à côté de La Haye, à Douvres. La nuit même, où sa première nuit de véritable roi, il n'était pas tourné vers l'avenir, vers les réformes, vers les vengeances qui pourraient tirer des régicides, mais il a choisi de parler familièrement à ceux qui étaient autour de lui de ce moment qui l'avait frappé, traumatisé sur l'âge de sa 21e année. Et ensuite, en 1660, l'épisode a été abondamment raconté. Il y a une quarantaine de livrets illustrés, de brochures, de pamphlets amusants qui racontent, publiés en 1660-1661, qui racontent la fuite romanesque de Charles II après la bataille de Worcester. Et puis, là, on pourrait dire que ce sont des moments de propagande où l'anecdote a été embellie, entourée d'éléments plaisants, vengeurs, ironiques.
Ça risquait de faire fable.
Or, on a une autre vérification, c'est que en 1680, à l'automne 1680, alors que le roi allait assister, comme à chaque saison, aux courses à Newmarket, dans le Suffolk, c'est au nord, une centaine de kilomètres au nord de Londres, il a confié à Samuel Pepys, qui était le premier lord de l'amirauté, un ami fidèle, il lui a confié un récit très précis de ces épisodes, donc de septembre à octobre 1651. Et Pepys, qui pratiquait une sorte de sténographie, a noté à la vitesse de la parole ce que lui racontait le roi. Et après, Charles II est mort, Pepys est mort, et les papiers de Pepys restés secrets sont passés au Magdalen College à Oxford, dont ils n'ont été extraits, redécouverts que par un érudit obscur qui s'appelle Dalrymple en 1766. Donc alors, ce récit fait par Charles II à l'automne 1680 n'était pas fait pour être divulgué. Il est resté d'ailleurs pendant à peu près d'un siècle enfoui dans des liasses de papier. Et on peut considérer qu'il s'agit peut-être pas de la réalité, mais enfin du souvenir le plus précis qu'avait pu en concevoir le souverain. Et un récit qui n'était pas fait pour la publication. Donc il est plus fidèle.
Une forme de sincérité.
Alors, ce qu'on va retenir, c'est l'illustration d'un phénomène historique qui est peut-être banal, qu'on retrouverait dans chaque époque, c'est que les personnages, les héros d'un temps, se comportent dans leurs moments les plus dramatiques, ont des conduites qui correspondent à l'imaginaire contemporain, à l'imaginaire de leur propre époque. Confrontés à des circonstances de réalité parfois tragiques, ils ont des réactions de personnages de théâtre ou de romans de la même époque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interaction entre la fable du roman et puis la réalité des comportements effectif des personnages d'un temps, de ceux qui sont regardés justement comme les héros, comme les protagonistes de leur époque. Alors, on peut, si vous voulez, revenir sur cet épisode maintenant, clore la biographie politique de Charles II qu'on a fait simplement que regarder en perspective, et puis revenir sur cet épisode qui suit, les quelques jours qui suivent la bataille de Worcester. On est au soir, à la nuit tombée du 3 septembre 1651, et ayant combattu jusqu'au dernier moment en ville, Charles et quelques compagnons galopent, quittent la ville et galopent vers le nord, pensant que le mouvement qu'on leur prêtera avec plus d'évidence serait d'aller chercher à s'embarquer vers Bristol ou vers Southampton, c'est-à-dire vers le sud. Donc, pour tromper des poursuivants, ils partent vers le nord. Et au matin du 4 septembre, ils se séparent d'ailleurs pour voir passer plus inaperçus. Et Charles arrive au fond des bois dans une maison qu'on lui a indiquée, au lieu dit « White Ladies », les dames blanches. Alors, ce ne sont pas des faits, mais c'est tout simplement le souvenir d'un couvent de religieuses cisterciennes qui étaient habillées en blanc. Et la maison des White Ladies s'appelle Boscobel, c'est-à-dire le bois joli, si vous voulez. Et un aspect qui a encore un trait qu'on croirait imaginaire, les tenanciers qui gèrent ce domaine au milieu des bois sont 5 frères qui s'appellent Pendrell, et 5 frères qui sont bûcherons et qui sont catholiques et qui vivent au fond des bois. Alors, ils accueillent le prince réfugié et ils vont le cacher dans les buissons. Et dans la journée, effectivement, des soldats de l'armée de Cromwell, des soldats parlementaires, vont venir fouiller la maison, parcourir les bois. À ce moment-là, Charles est dans les buissons. Alors, il est sauvé, dit-il, parce qu'il pleut à verse. Et puis, le jour suivant, les soldats sont toujours là, parcourant les chemins. La journée donc du 5, on lui suggère de monter dans les branches d'un gros chêne très feuillu qui avait été taillé quelques années plus tôt, qui a donc un surplus de branches et de feuilles. Et avec un autre compagnon, il va passer la journée avec un peu de fromage, de pain sec et de petites bières, alors qu'il y a les soldats de Cromwell qui sont, dit-on, en train de casser la croûte et de discuter en dessous de l'arbre. Alors ça, c'est l'épisode le plus romanesque qui va passer dans le souvenir, puisque c'est The Royal Oak, le chêne royal, qui va avoir un sort particulier dans l'imagerie folklorique anglaise. Alors, au passage, je peux dire que The Royal Oak fait partie, il y a eu un recensement fait récemment, il y a un peu d'années, sur 3 ou 4 000 pubs en Angleterre. Quels sont les noms des pubs les plus donnés? Eh bien, The Royal Oak vient dans les 3 ou 4 premiers. Il y a The Rose and Crown, qui est la rose des Lancastres, The White Hart, qui est, ça veut dire le cerf, c'est un vieux mot, heart, le cerf blanc qui réfère à l'emblème personnel du roi Richard II. Et puis il doit y avoir The White Horse qui est aussi l'emblème de la dynastie des Hanovres. Mais The Royal Oak figure souvent alors avec des enseignes où on voit des feuilles d'un chêne et entre les branches on voit une tête de Charles II ou bien dormant ou bien riant, faisant un clin d'œil aux passants.
Vous qui parliez du roi caché, parfois, là, cette fois-ci, c'est un exemple
bien
typique.
Sûr. C'est l'exemple du roi caché, exactement. Alors, on ne peut pas raconter le fourmillement des épisodes, mais il y en a beaucoup qui sont amusants. Il va tenter de gagner le port de Bristol pour essayer de s'embarquer. Au dernier moment, il s'avérera que le port est contrôlé très sévèrement par la troupe. et il doit y renoncer. Mais chemin faisant, les frères Pendrel à Boscobel lui ont donné une tenue de bûcheron. Il a un vieux justaucorps en cuir, il y a un haut-chausse vert usé, un chapeau enfoncé qui a subi beaucoup de pluie et une serpe à la main, et il est monté sur un cheval de moulin. Il se fait donner le nom de William Jackson, qu'on abrège en Will. Et il arrive avec un autre compagnon, il veut loger dans un moulin et le meunier les chasse en criant aux voleurs, en me les menaçant de coups de bâton. Alors on apprend plus tard qu'en fait ce meunier lui-même cachait des soldats royalistes qui s'étaient réfugiés dans le moulin. Un peu plus loin, il va trouver refuge dans une maison. Alors il va tantôt, grâce à des réseaux, des relais dans des maisons de familles royalistes, mais que l'on soupçonne justement, chez lesquelles on risque de perquisitionner a priori. Ou bien aussi dans des familles catholiques qui ont souvent caché entre les murs ou sous un plancher un lieu où on peut faire loger un prêtre catholique clandestin. Alors il va entre maisons royalistes et maisons catholiques, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, et un colonel Lane a l'idée de lui proposer de partir avec un passeport accordé à sa fille Jane Lane, qui doit aller aider une de ses amies qui est en couche dans une ville un peu plus distante. Et William Jackson, Charles II, va jouer le rôle de son domestique. Il est monté sur le cheval et Jane Lane est assise en croupe sur le cheval. Et c'est eux aussi là, ils vont figurer très souvent dans les enseignes de pubs, dans les gravures sur bois plus ou moins maladroites. Ils figurent bien sûr dans le légendaire folklorique anglais. Alors ensuite, après la compagnie de Jane Lane, un peu plus loin, il va servir de nouveau de domestique d'une charmante jeune femme. Enfin, on suppose a priori qu'elle doit être charmante, mais elle s'appelait Juliana Coningsby. Et celle-là devait l'accompagner vers le sud. Les ports du Pays de Galles et de l'Ouest étant bloqués, il laissait sa chance vers la Manche, vers le Devon, puis ensuite vers le Sussex. Et là, avec Juliana, on les loge dans une auberge et les compagnons disent les loge dans une seule chambre. Et là, ils passent pour des amoureux fugitifs qui cherchent à échapper à des parents qui les poursuivent. Donc, alors, il y a bien sûr tout l'aspect galant qu'on peut imaginer. Et puis alors, il y a aussi une floraison de quiproquos, c'est-à-dire chez un propriétaire fidèle, royaliste, un des domestiques, qui lui aussi est partisan des Stuart, dit, aperçoit William Jackson, qui se fait passer pour un domestique, et le soupçonne en disant « Mais est-ce que ce ne serait pas un de ces coquins de tête ronde ?» À un autre endroit, Charles a la stupeur et l'inquiétude de reconnaître un de ses anciens gardes, un soldat qui faisait partie de sa compagnie de garde. Et on interroge ce soldat, qui est lui-même rescapé de la bataille de Worcester, « Est-ce que vous aviez vu le prince ? À quoi le roi ? À quoi ressemblait-il ?» Et le soldat dit « Oh bien, il est un peu là, comme ce jeune homme-là, mais beaucoup plus grand et puis de meilleure mine. » Alors bon, alors effectivement, il est mal habillé et on dit qu'il est très sale, il n'est pas rasé. Alors il s'est fait couper les cheveux courts, ce qui est une sorte d'image prolétarienne, parce que normalement, la mode pour un gentilhomme est de porter les cheveux longs à ce moment-là. Il y a à d'autres moments, on l'envoie, puisqu'il est supposé être domestique, on l'envoie ferrer les chevaux. On l'envoie tourner la broche, ce qu'il fait avec plus ou moins d'adresse. Et un aubergiste dit « Mais vraiment, les fers de ce cheval ont une apparence. » C'est comme ça, on fère de cette forme dans les Midlands. Enfin, il soupçonne donc, il reconnaît qu'il pourrait bien s'agir de rescapés de la bataille de Worcester. Alors, à travers tous ces épisodes, Charles fait bonne figure. Et une bonne figure, mais une bonne figure de domestique qui prête à rire, puisqu'on le soupçonne de voler. Et alors, cette réputation le poursuit jusqu'en France, parce qu'il arrive à passer en bateau, donc Shoreham, à côté de Brighton, jusqu'à Fécamp. Nous sommes donc le 15 octobre. De Fécamp, il passe à Rouen. Et il a toujours le même costume, la même chemise depuis 3 semaines, et il ne s'est toujours pas rasé. Et il a cependant sans doute un peu d'argent qu'on lui a donné, ce qui lui permet d'aller dans une auberge à Rouen. Mais au moment où il veut partir, l'aubergiste va vérifier, va compter les draps, parce qu'il le soupçonne de s'en aller en volant des draps et de la chandelle, puisque c'était un usage des malandrins dans les auberges. Quand il arrive enfin à Paris, on est à la fin d'octobre, il aura certainement à ce moment-là pris un bain et retrouve sa mère
à la cour de France, auprès de la régente Anne d'Autriche.
Il retrouve la grande mademoiselle qui avait été un peu une fiancée officieuse autrefois. Et elle le trouve très à son goût. Henriette, la veuve de Charles Ier, vient dire à la grande mademoiselle « Voilà, je vous amène mon fils, vous le trouverez un peu ridicule parce qu'il a les cheveux coupés courts et puis il est très fatigué, on pense qu'on le reconnaît à peine tellement il a le visage émacié. » Et la grande mademoiselle trouve que, bien qu'émacié, bien qu'avec ses cheveux courts et la barbe qu'il n'a toujours pas rasée apparemment, il a cependant une très belle figure et elle se verrait très bien dans la situation d'une reine d'Angleterre.
Alors, ce qui n'était pas sûr à l'époque, parce qu'en 1651,
oui, mais elle aurait pu être, elle aurait pu être in partibus, mais c'était tout de même, après tout, l'héritier d'un trône. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment justement où il va retrouver à Paris sa mère et la cour de France, il raconte un épisode des péripéties différentes. Il raconte effectivement qu'on a failli plusieurs fois l'identifier, qu'il s'est caché dans les bois, qu'il a quelquefois il a pris un costume féminin pour assister à la messe, à un office à côté de, voyons, c'est de Charmouth, dans le Devon, je crois. Mais il prétend qu'il est passé par Londres. C'est-à-dire qu'il a construit un autre récit pour éviter d'incriminer, de compromettre ceux qui l'ont aidé au cours de son périple. Et il raconte donc qu'il est passé par Londres, qu'il s'est caché dans des galetas et qu'il a trouvé un bateau ensuite qui l'a fait débarquer à Dieppe. Alors qu'en fait, il est arrivé à Fécamp. Mais donc, il a tout travesti.
Oui, mais c'était pour la bonne cause.
C'était pour la bonne cause. Or, il y a aussi, alors, en Angleterre, du côté parlementaire, c'est-à-dire à Londres, deux récits différents étaient parus. C'est-à-dire que pendant le mois de septembre, où on le traquait, on avait fait courir à Londres le bruit qu'il était mort et qu'il avait cherché à se sauver. Et ce récit fabulé avait été imprimé à Londres et on y racontait qu'il avait traversé toute l'Angleterre, qu'il s'était loué comme domestique d'un officier de Cromwell, qu'il avait subi tout un tas d'humiliations, qu'il avait vu ses compagnons prisonniers, qu'il avait vu les drapeaux qui lui avaient été pris pendus dans l'abbaye de Westminster. Donc, on le représentait comme vaincu et humilié, ridicule. Et on prétendait qu'il s'était embarqué sur un mauvais bateau hollandais et que le bateau avait coulé et qu'il était noyé. Ce récit avait été imprimé à Londres fin septembre. Alors, ensuite, la nouvelle de son arrivée à la cour de France n'arrive à Londres que fin octobre ou début novembre. Et il va y avoir une nouvelle version qui va circuler à Londres, où alors là, cette fois, on a adapté et où on le fait passer effectivement par Londres. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle version, cette fois, il ne se noie pas, mais il traverse les mêmes épisodes qui le disqualifient d'une certaine manière, qui l'humilient, qui le ridiculisent, et il est supposé ensuite parvenir à la cour de France, où il déçoit tout le monde, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un instrument de propagande du gouvernement du protectorat. Alors, c'est intéressant de constater que, vous voyez, il y a un nombre de versions de ce même épisode. C'est un enjeu politique qui donne lieu à des affabulations immédiates, contrastées, différentes. Cependant, vous voyez, c'est ce qu'il y a de commun de tous ces récits, quelle que soit leur orientation politique, c'est l'idée du roi caché, justement du prince, qui, dans une situation différente, suscite un nombre de quiproquos qui relèvent des intrigues de la comédie ou de la farce. Et on trouve, avec d'autres personnages de la même époque, en 1652, c'est-à-dire c'est le vainqueur de Rocroi qui est devenu le chef de file de la Fronde des princes, et il passe de Guyenne au Val-de-Loire, incognito, habillé en simple cavalier, et il joue effectivement le rôle d'un domestique. Il est avec plusieurs compagnons, Gourville, La Rochefoucauld, et il se fait passer pour leur palefrenier, leur valet d'écurie. Et c'est ensuite, bien sûr, l'épisode est raconté de la même manière, à la gloire du prince de Condé, mais avec ces épisodes de farce. C'est-à-dire que dans une auberge du Limousin, les cavaliers s'arrêtent pour trouver à manger et l'aubergiste leur dit « je n'ai plus que quelques œufs et un peu de lard, mais votre domestique va pouvoir faire une omelette au lard ». Alors c'est le prince de Condé qui est supposé faire une omelette au lard et l'aubergiste lui montre comment faire tourner une omelette et Gourville, dans ses mémoires, dit « il essaya de faire le même geste ». Et du premier coup, il la jeta bravement dans le feu. Alors, on fait une deuxième omelette. Mais alors, voilà, Condé étant un valet de ferme maladroit, il reprend, vous voyez, la même farce, le même quiproquo que Charles II habillé en William Jackson. Et en 1655, Christine de Suède quitte Stockholm, elle quitte sa couronne, elle va aussi quitter le luthéranisme pour passer au catholicisme, mais elle tient sa résolution secrète. Elle traverse le royaume de Danemark, puis le nord de l'Allemagne, puis les Provinces-Unies, habillée en homme. Elle a certes une escorte avec elle de plusieurs compagnons, mais elle est habillée en homme. Elle a des pantalons de cavalier avec parfois une jupe longue qu'elle met par-dessus, elle chevauche en Amazone, elle a un grand chapeau, elle s'est fait couper les cheveux courts, elle a des armes de cavalier, elle se fait donner le nom de comte d'Ona, D-O-H-N-A, qui est un gentilhomme suédois, de son escorte. Et la princesse incognito, chevauchant sous des habits d'hommes, suscite bien entendu les mêmes types de plaisanteries. C'est-à-dire que la reine de Danemark apprend que Christine va traverser, déguisée en homme, les îles et la péninsule du Danemark. Et elle cherche à voir Christine et à la surprendre dans une étape d'auberge. Alors, l'histoire est inventée. Elle est inventée, mais dans l'instant. Elle n'est pas authentique. Mais elle fait partie, justement, de ces enjolivements qu'on ajoute à une histoire qui, par elle-même, est extraordinaire. Or, la reine de Danemark, pour pouvoir voir Christine et la tromper, la surprendre, se déguise elle-même en servante d'auberge. Mais Christine a reconnu, sous le costume de servante d'auberge, a reconnu la reine de Danemark, et donc, pour la décourager, elle dit à très haute voix, elle affecte de dire pique-pendre du roi de Danemark et des Danois en général, pour chasser l'importune. Alors, vous voyez, il y a là aussi, dans cette suite d'historiettes de quiproquos, toujours le même ressort comique. Et ce qui est alors plus peut-être charmant, étonnant, quelques semaines, quelques mois plus tard, Christine, poursuivant à très petites étapes son chemin vers le sud, passe à travers l'Allemagne, la Hesse, elle fait une étape à Francfort, et là, elle rencontre Charles II, William Jackson, qui était donc le comte d'Ona, Christine de Suède, rencontre William Jackson, qui est Charles II, qui était à ce moment-là à Francfort, où il était venu voir la foire aux livres qui existait déjà et où il venait se désennuyer et où il figurait incognito avec deux de ses frères d'ailleurs. Alors, on sait très peu de choses sur eux, mais ils se sont rencontrés, ils se sont parlé à ce moment-là, chacun étant déguisé en exil, mais ayant un sort très différent, puisque l'un n'avait pas encore recouvré son trône, tandis que l'autre allait l'abandonner.
Avait décidé d'abdiquer. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir montré des personnages réellement méconnus du XVIIe, c'est-à-dire les personnages réels, mais un peu fantasmagoriques aussi. Parce qu'il y a de l'invention, mais il y a de la pure vérité, en tout cas pour Charles II.
Oui, parce que, voyez, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut trouver là, dans tous ces épisodes, plusieurs avatars, plusieurs manières qu'on trouvait d'écriture de l'histoire. Puisqu'on a des épisodes où la réalité rejoint l'imaginaire, ensuite les affabulations, les enjolivements que l'on peut y ajouter. Et puis ensuite, il y a le passage dans le légendaire folklorique que retient la postérité. Et le cas du Royal Oak l'a fait dans l'histoire politique anglaise. Ensuite, le 29 mai devient The Oak Apple Day, c'est-à-dire le jour de la... Oak Apple, c'est la gale du chêne. Et ce jour-là, on doit se mettre normalement une petite brindille de chêne au chapeau pour marquer le souvenir du roi Stuart.
Ça demeure, cette coutume-là, en ce moment?
C'est-à-dire qu'elle n'a plus sa signification politique. Et je crois que c'est resté, pour le 29 mai, une plaisanterie, un jeu d'enfant.
Mais c'est beaucoup, un jeu d'enfant dans l'histoire du pays.
Il y a cependant, de temps en temps, alors il y a assez souvent des bateaux qui s'appellent The Royal Oak, il y a des courses de bateaux qui se font de Brighton à Fécamp, enfin il y a tout un tas d'éléments qui viennent, enfin c'est tout au moins, c'est le type d'anecdote qui est passé dans la mémoire collective, fausse, vraie ou affabulée, oui, de l'Angleterre. Je crois que là, on peut dire là, un contraste culturel. Nous n'avons pas dans les enseignes de nos cafés, de nos brasseries, de nos restaurants, tout ce paraphernalia historique que les Anglais adorent. Je crois que là, il y a un contraste culturel qu'on peut souligner.
Merci de nous avoir montré la postérité dans tous les domaines de Charles II. Au revoir, Yves-Marie Berset.
Au revoir.